Salut, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga et une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, de l'inspiration et des conseils, de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Si tu souhaites recevoir plus d'informations et de partages, je t'invite à visiter mon site internet anoukcoroller.com. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter l'interview de Laure, aussi plus connue sous le nom de Santamila sur Instagram. Laure est maman et entrepreneuse et elle a créé tout un concept de retraite basé sur la thérapie par l'océan qu'elle a appelée Ocean Therapy. Au programme de ses retraites, du yoga, des moments partagés autour de sports aquatiques comme le surf ou le kitesurf, des temps de réflexion personnelle, du coaching et des moments de convivialité passés avec une super communauté. Laure est une personnalité solaire, entraînante et pleine de compassion et de douceur. Sur les réseaux et sur sa chaîne My Ocean TV, elle partage toutes ses astuces et ses conseils pour vivre plus sainement et adopter un mode de vie connecté à l'océan. Laure m'inspire énormément, notamment dans son rôle d'entrepreneuse, et c'est pour ça que j'avais envie que ce soit une invitée du podcast. Vous allez voir qu'elle partage tout un tas d'informations super utiles, notamment si vous êtes entrepreneuse ou si vous aspirez à le devenir. Dans l'épisode, elle partage son histoire inspirante de comment elle a été menée à créer ce concept de My Ocean Therapy et comment est-ce qu'elle a changé complètement de vie. Elle vous donne également ses meilleurs conseils pour réussir au mieux votre reconversion professionnelle, surtout si vous cherchez à devenir entrepreneuse. Elle partage aussi ses conseils pour créer votre communauté de fans, souligne l'importance d'être entouré par une communauté d'entrepreneurs et tellement plus. Laure est une femme sincère, drôle, et j'ai tellement de chance de l'avoir dans ma vie. Pour retrouver les liens des ressources mentionnées dans notre conversation, rendez-vous sur la fenêtre de l'épisode. Et si vous avez apprécié cet épisode, ou si vous aimez mon podcast, alors un petit geste simple, mais qui veut dire tellement pour moi, c'est de vous rendre sur l'application Apple Podcast et de me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Je vous souhaite une très bonne écoute de cette conversation. Bonjour Laure, bienvenue sur le podcast. Je suis trop ravie de t'accueillir, de te présenter à mes auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas, qui commencent cette interview, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour Anouk, merci pour ton invitation sur le podcast. Je suis ravie aussi d'être ici et d'échanger avec toi. Alors, pour me présenter, je m'appelle Laure, je suis plus connue sous le nom de Santamila. Comme tu m'as posé la question, je trouve que c'est intéressant d'expliquer pourquoi Santamila. Alors, ce n'est pas mon nom de famille, mais c'était un petit peu le nom, comme on dirait le pseudo sur lequel on me retrouvait sur Instagram. Et le nom de mon blog actuel, d'ailleurs, qui est resté. Et Santamila, c'était dans l'idée de partager le mode de vie que les femmes de mon entourage m'ont donné, m'ont transmis. Et c'est le nom de ma grand-mère qui s'appelait Mila Santa Cruz. Et je voulais partager un petit peu ce mode de vie qu'elle m'inspirait, que m'inspiraient les femmes autour de moi, les femmes, ma mère et mes grand-mères.
Ta grand-mère, elle était d'une origine particulière, Santamila ?
Oui, ma grand-mère était andalouse. Elle est née du coup en Andalousie et elle a vécu au Maroc, à Rabat, où elle a rencontré mon grand-père qui était de Vénus. Du coup, c'est un beau mélange et ils ont eu leurs enfants là-bas. Donc, mon père est né à Rabat, près de l'océan, au chaud. Ils ont vécu longtemps là-bas et après, ils sont rentrés en France. D'où peut-être ce côté, ce besoin d'océan au fond de moi et de chaleur.
Alors justement, parle-nous-en. Tu as créé des stages ou des retraites que tu as appelées My Ocean Therapy.
Oui.
Je dis avec un grand accent américain, mais peut-être que tu le dis un petit peu différemment.
Oui, tout à fait. En fait, pour la petite histoire, du coup, c'est un petit peu dans nos gènes. On vient un peu de partout et de nulle part, parce que du coup, mes grands-parents ont vécu à l'étranger. Donc, du côté de mon père au Maroc, du côté de ma mère vers l'Algérie. Et en fait, on a toujours été un petit peu en vadrouille. Et quand ils sont rentrés en France, ils ont cherché un endroit où poser leurs racines. Et ça a été du côté de l'ouest, du côté de l'océan. Et en fait, nous, on a continué à vadrouiller puisque mon père était pilote de chasse. Donc, on a toujours été en vadrouille toute notre vie. Et le seul endroit où on se sentait bien, justement, c'était là où avaient posé mes grands-parents leurs racines, en Vendée. On avait une maison familiale et du coup, on y allait été comme hiver à toutes les saisons. On était près de l'océan et c'était vraiment l'endroit où je me sentais comme à la maison. C'est vraiment indescriptible. J'avais ce besoin... dès qu'on avait des vacances, de partir près de l'océan. Donc ça a toujours été en moi et j'ai continué à vadrouiller. J'ai été pas mal à Lille, là où j'ai rencontré mon conjoint. J'ai fait mes études à Lille. J'ai été aussi pas mal à l'étranger. Dès que je pouvais, je repartais à l'étranger près de l'océan et au chaud. Et mon premier job a été à Paris, comme pour beaucoup, en marketing. Et c'est un petit peu à cette période-là où j'ai commencé à travailler. Je me suis retrouvée un petit peu dans ce métro, boulot, dodo, pressée comme un citron, parce que je trouve que quand on commence nos premiers postes, on n'est pas... on a beaucoup de pression et de charge de la part de nos supérieurs. Donc c'est dans cette période-là où j'ai vraiment ressenti que j'avais besoin de retrouver un peu ce que m'avaient apporté mes parents, mes grands-parents, ce que je vous disais, un petit peu les femmes autour de moi dans le bien-être, pour sortir un petit peu des outils et m'apaiser, parce que j'étais vraiment dans une espèce de machine de guerre où je chantais que c'était je me levais, je prenais le métro, puis le RER, j'allais travailler toute la journée enfermée dans un immeuble et je ressortais le soir, il faisait nuit. Et après, c'était aussi les joies de la vie parisienne, mais après on enchaînait, on voyait d'autres amis, on rentrait tard chez soi et ça recommençait le lendemain. Et du coup, c'est vraiment dans cette période de vie où de début de vie d'adulte où j'ai senti un mal-être, où j'ai senti de la fatigue mentale et je me suis dit, ouh, il faut que tu cherches ce qui te fait du bien, ce qu'on t'a appris. Et c'est là où vite est revenu le point de l'océan. Et je sentais que, comme quand j'étais petite, j'avais besoin de repartir dans ma maison de famille près de l'océan. Mais pas que cette maison de famille, finalement, c'était à chaque vacances, à chaque week-end, j'embêtais un petit peu tout le monde. Même en hiver, j'avais besoin que ça soit une escapade près de l'eau et près de l'océan en particulier. Et j'ai senti que c'était ça qui me régénérait. Donc c'est un petit peu à ce moment-là qu'est revenue toute cette ocean therapy. Et en creusant un petit peu et en parlant aussi avec des amis, j'avais pas mal de demandes sur où tu pars quand tu pars en week-end en France, où tu pars quand tu pars en vacances en Europe ou un petit peu plus loin. Et du coup, je donnais un peu mes bonnes adresses, quel sport faire, aller se baigner, découvrir le kite, se mettre au paddle. J'étais beaucoup à faire des jeux et des moments, des activités autour de l'eau et de l'océan parce que j'ai eu cette éducation. Et en fait, en ayant pas mal de demandes d'abord de la part de mes amis, je me suis dit ça serait intéressant d'écrire en fait des articles sur ces destinations un peu bien-être autour de l'océan et d'écrire aussi un petit peu ce que je mets en place pour me sentir mieux avec tout ce stress de cette nouvelle vie d'adulte. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier blog, du coup Santa Mila, en me disant bah voilà, je vais créer des articles et des tips pour partager ce mode de vie de ma grand-mère, des femmes autour de moi, pour être bien, être heureux, avec justement des destinations autour de l'océan. Donc ça a commencé comme ça, et je me suis bien amusée, et puis est arrivé Instagram, hein, parce que mon blog, c'est un sacré bout de temps. Instagram est arrivé, du coup, j'ai beaucoup aimé les réseaux, parce que j'écrivais des articles de blog, mais en fait, je déteste écrire. J'adore en fait échanger et parler avec les gens, mais écrire des belles phrases, c'est vraiment quelque chose qui ne me va pas. Du coup, je perdais des heures et des heures à écrire. Et ma mère d'ailleurs, qui est prof de lettres, elle avait vraiment du mal, enfin prof de français, quand elle relisait mes articles, elle me disait « mais c'est pas possible, attention, écris mieux, tu écris trop comme tu parles ». Donc, quand est arrivé Instagram, j'étais ravie parce que ça commençait par des petites photos et en fait, j'écrivais en dessous la même chose. Je le voyais un peu comme un mini site avec des mini articles. Donc, je mettais une photo et voilà, je disais les sports à faire l'été autour de l'eau, pourquoi aller se baigner en hiver, etc. Mais sur des formats plus courts qui me correspondaient bien. Donc, je me suis beaucoup amusée sur Instagram. Puis, les stories sont arrivées. Donc, c'est encore plus facile pour moi de partager des choses de façon spontanée. Et un petit peu comme ça, ça commençait à prendre le site Santa Mila et l'Instagram. Et j'échangeais beaucoup avec les gens. Et je pense que c'est ce qui me plaisait beaucoup. Et de plus en plus, en fait, je voyais qu'à chaque fois que je proposais des destinations, bah, les gens partaient là où je leur avais dit de partir, en Bretagne, au Portugal, à Bali, etc. Et je continuais ça, du coup, je le faisais et ça me prenait beaucoup de temps à côté de mon job à Paris en marketing. Et je me suis dit, bah voilà, ça prend de plus en plus de temps et pourquoi pas continuer, mais vraiment me professionnaliser et créer quelque chose là-dedans. Et j'ai toujours eu, je crois, envie de prendre soin des gens et de... Je me rappelle quand j'étais petite, on m'avait posé la question récemment de ce que je voulais faire quand je serais grande et j'avais envie de soit créer un spa dans un endroit pour prendre soin des gens, soit être journaliste et partir un peu sur le terrain et faire découvrir des choses à des gens. Et en me rappelant de ça, quand on m'a posé cette question, je me suis dit, bah, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui et je pense que c'est pour ça que progressivement, ça a été vers ce métier-là parce que via les réseaux, via Instagram, ça m'a permis un peu d'avoir ce côté où derrière la caméra, de façon hyper spontanée et simple, bah, je papote, j'échange, je raconte des choses. Et avec justement la suite de mon aventure en créant les séjours, j'ai un peu créé ce lieu où je prends soin des gens. Et du coup, tout ça pour dire que je faisais ça à côté de mon métier. Je me suis dit, bah allez, lance-toi dans l'aventure et juste vois ce que ça donne en fait de partir et de créer ton business. Et j'avais besoin, je pense, de vraiment partir de ma boîte pour savoir ce que je voulais faire concrètement. Donc, quand je suis partie de ma boîte, j'avais déjà mon blog, j'avais déjà mon Instagram et je savais que je voulais créer quelque chose, des événements dans le bien-être. Mais je ne savais pas exactement comment. Et donc, je suis partie de mon entreprise. J'ai eu de la chance. Ils m'ont soutenue dans mon départ et ils voyaient déjà que je posais plein de congés. Souvent pour aller à des événements bien-être, etc. Donc, ils voyaient déjà que je créais un petit peu tout ce côté Santa Mila. J'emmenais même les gens de ma boîte à aller courir le midi au bord du lac pour prendre l'air. J'avais monté un petit crew au sein de ma boîte, donc c'était rigolo. Et quand je suis partie, je me suis mis un peu trop la pression, je pense, la première année. Parce que je me suis dit, waouh, t'as 2 ans pour vraiment créer un business viable et faire quelque chose de concret. Et du coup, je me suis mis beaucoup de pression au début. Et j'ai un peu tâtonné, j'ai un petit peu eu du mal. Et j'ai créé des événements où du coup, j'avais pas de formation dans le bien-être, donc j'ai invité un coach. Et j'essayais de faire un petit peu comme mes articles, mais j'essayais de faire découvrir un lieu, un coach. Mais c'était trop compliqué d'organiser des événements près de l'eau, parce qu'à cette époque, j'étais entre Paris et Lille. Donc c'était toujours un petit peu en ville, donc je m'y retrouvais pas trop. Je voulais organiser des choses plus loin, mais je voulais pas être une agence de voyage. Et j'ai vraiment pendant un an, et je pense que j'ai appris de ça, mais je me suis un peu brûlée les ailes. Je pensais être heureuse et me dire « Waouh, ça y est, t'entreprends, tu dois être une femme hyper épanouie. » Et au contraire, je bossais nuit et jour, je faisais pas de pause, je regardais plus de films, j'étais tout le temps devant l'ordi, je finissais hyper tard. Et je sentais qu'au fond de moi, il y avait ce mal-être encore plus profond qu'avant, où j'étais à Paris, peut-être encore plus dans une situation équilibrée. Et en fait, la vie a fait que en décembre, je sais plus quelle année, mais je crois que c'était en décembre 2018, Santa Mila, ma grand-mère, Mila Santa Cruz, est partie. Elle est décédée hyper rapidement. Et ça a été un petit peu un choc. Je m'y attendais pas. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, la vie est courte. En fait, pour moi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est aussi un message. Et je pense que j'attendais trop dans cette période où je me disais, je rêvais de me former dans le bien-être, de partir à Bali, près de l'océan, prendre du temps pour moi, réfléchir sur mon projet d'entreprise et grandir. Et en fait, à chaque fois, je me disais, t'as pas le temps, faut construire ta boîte, faut construire ton business, reste à Lille, t'es pas légitime, pourquoi tu ferais une formation de yoga, t'es raide comme un piqué, tu seras jamais une bonne prof de yoga. Et en fait, je me mettais trop de pression. Et le départ de Mamila a fait que ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Et cette nuit-là, je me suis dit, arrête d'attendre. En fait, prends ce moment pour toi, pars. C'est le moment, il faut que tu partes, c'est un signe. Et du coup, en 48 heures, je me suis renseignée, informée auprès de mes proches. Et je suis partie, j'ai booké ma formation de yoga à Bali. Et je crois que ça a été la meilleure décision et le meilleur virage dans ma vie pour tout. Parce que je pense que j'avais besoin et j'avais un trop plein de mouvements, un trop plein dans ma tête. Et j'avais besoin de prendre juste du temps pour moi, seule, loin de tout et au bord de l'océan. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie à Bali, c'est que j'avais besoin d'être dans un endroit baigné dans la culture hindoue, mais d'être dans un endroit où je me sens en sécurité, qui soit vraiment près de l'océan, parce que c'est un endroit qui me ressource depuis que je suis petite. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans cette décision, j'étais déjà en couple depuis longtemps. J'avais aussi mes parents qui avaient suivi toutes mes aventures d'études. Et je savais que j'allais partir dans tous les cas, mais en échangeant avec mon conjoint et en échangeant avec mes parents, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas me dire que je suis folle, que je fais un virage à 360 degrés, que je vais dans du n'importe quoi, que je pars en vacances à Bali, qu'il n'y a pas de sens à ça. Les deux m'ont dit, mais meilleure décision de ta vie, vas-y, fonce, c'est sûr que tu vas créer des choses incroyables, c'est du temps pour toi, bien investi. Même mon conjoint, il m'a dit, mais fonce et pars, reviens, pars et reviens quand tu es prête de revenir. Je devais partir un mois à la base, et je suis partie 3 mois finalement, parce que j'étais trop bien là-bas. Et j'ai beaucoup appris, je suis partie toute seule, du coup ça m'a permis vraiment de prendre du temps pour moi, de me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire, de ma vie, ce que j'avais envie de construire dans ma vie, et pour moi le pro et le perso sont vraiment mêlés, donc c'était important pour moi d'avoir quelque chose qui ait du sens. Et ça m'a vraiment permis de partir loin comme ça, seule, d'avoir beaucoup de temps de réflexion et de me trouver. Et je crois que je me suis trouvée là-bas, et c'est comme ça que j'ai vraiment réussi à poser un petit peu des mots sur ce que j'avais envie de transmettre et qui a fini par porter le nom de Ocean Therapy. De transmettre un mode de vie et une méthode autour des bienfaits de l'océan qui sont ressourçants et de ce mode de vie.
Et ça fait combien de temps du coup maintenant que tu as lancé ça ?
C'était cette formation, quand j'ai réfléchi à tout ça et je suis partie, c'était en 2018.
Ok.
Donc la réflexion de tous ces séjours est arrivée en 2018 et... en 2019. En 2019. C'était en décembre 2018 où est partie Mila et c'est en 2019 où je suis partie me former.
Ok, et où t'as monté après le business qui est...
Exactement.
Les séjours et que c'en est là où c'en est maintenant.
Exactement, ça a commencé par la rédaction et l'écriture de tout ça à Bali, du coup quand je suis partie... Et quand je suis revenue, j'ai eu l'opportunité d'écrire un livre sur les bienfaits de l'océan et sur l'Ocean Therapy. Ouais. Donc j'ai écrit mon livre et je pense que ça a été aussi une deuxième grosse étape. Donc là, j'étais rentrée en France et vu que j'adore écrire, comme vous le savez.
Tu t'es dit pourquoi pas écrire un livre.
C'était hyper dur. Non mais j'avais envie de l'écrire, mais waouh, ouais. Ça a été hyper dur. Mais je suis partie 2 semaines en Bretagne. Et écrire ce livre au bord de l'eau, justement, en plein hiver, c'est trop bien au retour pour l'écriture de ce livre. Et ça m'a permis vraiment de poser qu'est-ce qui était pour moi cette Ocean Therapy, en quoi consistait ce mode de vie et qu'est-ce que je voulais en faire derrière, comment le transmettre. Et c'est là où sont arrivés les séjours. Je me suis dit que voilà, il y avait plein de gens qui partaient à chaque fois que je recommandais des endroits. Et là, je me suis dit que ça serait intéressant de monter un séjour où je transmets un petit peu ce mode de vie autour de l'Ocean Therapy. Pour s'apaiser, se ressourcer.
C'est super intéressant ce que tu dis, je trouve, surtout sur... Enfin, tout est intéressant, hein. Mais je pense à des femmes qui sont dans des jobs à Paris avec le 9 à 5 heures, qui sont stressées et qui rêvent de monter leur propre business et qui, voilà, hésitent à... Enfin, qui savent pas comment faire cette transition, en fait, parce qu'elle est délicate, cette transition, et t'en es la preuve aussi. Quels seraient tes conseils maintenant que toi t'as fait cette transition avec des erreurs, avec des wins? Quels seraient tes conseils pour cette femme qui nous écoute et qui se dit j'ai envie de faire cette transition?
Mes conseils, c'est de préparer Je trouve que c'est important de savoir de quoi on a besoin. C'est important que ça ne soit pas trop stressant, en fait, cette transition. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, je me suis rendu compte à l'époque, quand j'étais dans mon métier, qu'on avait beaucoup de chance aujourd'hui, qu'on pouvait se faire connaître. À l'époque, en fait, quand on montait un business, c'était soit de se faire connaître à travers du marketing ou de la communication costaud, parce que c'est de l'affichage, d'être dans la presse. Du coup, c'est des grosses barrières financières. Et c'est un peu ce qui m'a aidée quand je me suis lancée. Je me suis dit, profite de la naissance du digital où tu peux te faire connaître via des outils qui sont gratuits, qui prennent beaucoup de temps, parce que clairement, c'est l'investissement en termes de temps, mais qui ont une barrière financière vraiment moindre. Et quand j'ai lancé mon site Santa Mila et aussi mon Instagram, je me suis dit, vas-y, tente. Et je me rappelle que mon premier article, j'ai dû mettre 2-3 mois à l'écrire, je me suis dit, mais ça se trouve, il n'y a jamais personne qui va le lire. Et je me suis dit, mais comment les gens pourraient tomber sur cet article que j'écris? C'est drôle quand même. Et en fait, je l'ai écrit, je me suis dit, bon, tu n'as rien à perdre, donc lance-toi. Et en fait, je me suis toujours dit, si ça prend, au moins ça me permettra d'avoir une première base de personnes qui me suivent et qui du coup croient en ce que je propose en fait. Et à la base, d'ailleurs, je m'étais même dit, j'hésitais entre lancer soit une petite marque de vêtements de sport, parce que c'était il y a très longtemps, et il n'y avait pas tant de marques récentes. Donc, je m'étais intéressée sur une petite marque un peu française et éthique à lancer, et une marque de combi que je voulais lancer, de combi de surf. Et je ne savais pas trop dans quoi je voulais faire, mais je m'étais dit, bah, lance ton site internet, lance ton Instagram, passe du temps dessus pendant que tu travailles et vois si ça prend. Et je pense que ça, c'est assez intéressant de se dire, de préparer petit à petit. Moi, j'ai quand même pendant 2 ans travaillé à côté. Et je pense que quand on aime en plus ce qu'on fait, moi, j'avais envie de faire, ça c'est un deuxième conseil, de partir dans des choses qui nous passionnent, parce que c'est là où on est les meilleurs en général. Et du coup, j'ai vraiment passé du temps, de mon temps libre, à développer un petit peu tout ça pour voir comment ça prenait. Et du coup, ça m'a permis de préparer mon départ. Donc, j'ai préparé mon départ là-dessus. Et après, j'ai préparé aussi mon départ avec mon entreprise. Donc, j'ai vraiment négocié une façon de partir pour que ça soit confortable. Donc, je suis partie en rupture conventionnelle. Mais je suis pas partie du tout du jour au lendemain. Ça a été très long parce que à la base, ils m'avaient dit « on ne fera jamais de rupture conventionnelle, ce n'est pas possible ». Mais comme ils avaient un besoin à ce moment-là parce qu'un de leurs employés partait et qu'ils avaient besoin que quelqu'un reste sur ce poste et prenne d'autres missions en plus, ça a été un petit peu le deal de se dire « ok, je vous aide ». Donc, ils m'ont donné plus de responsabilités pendant 6-8 mois. Donc, ça a été long quand même. Et en échange, ils m'ont aidé à partir. Et en fait, ça a été une bonne façon finalement parce que ça m'a rajouté du travail, mais des responsabilités. Et finalement, quand on lance sa marque, je travaillais en marketing, donc j'étais sur une marque, chef de produit ou ce qu'on appelle un peu brand manager. Bah, c'est comme être un peu son propre chef, gérer un budget, etc. Donc, ça a été aussi une bonne école. Donc, je dirais d'abord de tâter le terrain, de se lancer, de prendre le temps, de voir ce qui nous plaît et bah, avec le digital, de voir comment ça prend. Ensuite, de se préparer parce que l'art de rien, c'est quand même important de ne pas se retrouver le bec dans l'eau financièrement du jour au lendemain. Parce que ça peut être un vrai stress et du coup, bah, de prendre des métiers que dans l'alimentaire et de plus se concentrer sur le cœur de son business. Et ça, c'est le dernier point que je dirais, c'est que donc, je suis partie dans cette optique de vraiment me dire « Ok, en fait, moi, ce que je souhaite faire, et c'est quelqu'un qui m'avait coaché, qui m'avait dit ça, quel est ton projet de cœur, ton projet cible ? Donc moi, c'était de créer des événements ou de créer quelque chose, en tout cas autour de l'océan, et d'amener des gens là-dedans. Et après, c'était qu'est-ce que tu sais faire maintenant, aujourd'hui, qui peut te ramener de l'argent ? Et aujourd'hui, bah, c'était d'accompagner des gens dans le marketing parce que je savais faire. Même si je détestais faire ça, bah, je savais rédiger des articles puisque j'avais mon blog et en plus, j'avais ce background de marketing. Et tout ça me permettait d'avoir un petit peu des missions de freelance qui me permettaient de ramener de l'argent. Et du coup, quand je me suis lancée la première année, je me suis lancée avec un peu cet objectif-là qu'on m'avait conseillé. J'avais trouvé que c'était un super conseil. Première année, je faisais 80% de rentrée d'argent alimentaire, de ce que je savais faire, mais 20% de mon projet kiff, mon projet aspirationnel. La deuxième année, j'ai essayé de me débarrasser de 30% de l'alimentaire pour faire 50% alimentaire et 50% de revenus de ce que j'avais en projet de rêve aspirationnel. Et troisième année, c'est le plus dur, hein, parce que souvent on veut garder l'alimentaire parce qu'il nous rassure, c'est de passer à 20% l'alimentaire et 80% d'aspirationnel. Et la quatrième année, 100% de projet aspirationnel. Donc au début, j'avais des petites missions de rédaction de pige, de faire du community management pour des marques qui correspondaient pas trop à ce que je faisais. Et petit à petit, je les ai sorties et je me suis concentrée sur mon business. Donc c'est un petit peu de préparer ça, et ça c'est un super conseil qui permet d'être rassurant, de se dire ok, j'ai peut-être un loyer à payer, j'ai peut-être une vie avec des enfants à payer, bah le côté d'avoir une partie alimentaire me rassure, mais surtout de ne pas oublier pourquoi on est parti et pourquoi on s'est lancé, d'avoir toujours ce projet aspirationnel en tête et de ne pas oublier ces 3 ans. Sinon, on peut très bien se retrouver 5 ans plus tard à faire que du job alimentaire qui nous épanouit pas. Donc ça, c'est vraiment important. Et un autre conseil, et ça, c'est un des meilleurs aussi que j'ai eu, c'est que moi, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, parce que mon père est pilote de chasse, ma mère, elle est prof de lettres. Du coup, ils connaissent pas du tout ce milieu-là, ils sont hyper bienveillants, ils m'accompagnent toujours, hein, et c'est des super parents. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout un réseau dans ma famille d'entrepreneurs, mais j'avais quelques copains qui entreprenaient, et du coup vraiment, je leur ai posé beaucoup de questions, ils m'ont dit le plus important c'est le réseau et de bien te faire accompagner, donc c'est de construire son réseau d'entrepreneurs et un petit peu de coacher de mentor, et de régulièrement échanger avec ces gens-là et qui ont de l'expérience et qui peuvent nous aider à développer notre boîte. Parce que souvent, quand on parle d'entrepreneuriat avec des amis qui ne sont pas là-dedans, on peut des fois les fatiguer. Il ne faut pas leur en vouloir parce que nous, on est passionnés par notre métier et on a du mal à couper des fois. D'autres personnes ne sont pas autant, surtout quand ce n'est pas notre boîte, passionnées de... On n'a pas envie de parler de travail tout le temps. Et c'est important de le respecter et de ne pas fatiguer ces gens-là. Donc c'est important quand on a un petit peu ce trop-plein d'idées et de paroles que moi je peux souvent avoir, bah justement d'échanger avec des gens qui sont dans l'entrepreneuriat et qui vont nous permettre de nous apporter des solutions, etc., des choses concrètes.
Et on pourra revenir dessus aussi, mais c'est vrai que quand on fait un lunch avec toi, moi et Sarah Vidal, on ne parle que d'entrepreneuriat. Et bon, c'est des moments qu'on chérit beaucoup, mais à la fois, c'est vrai que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui n'a pas son business peut se dire...
Il ne resterait même pas prendre le café, je pense.
C'est clair. Merci pour ces partages. J'ai trouvé ça vraiment génial et je pense que ça aide plein de femmes et d'hommes, sûrement, qui nous écoutent aussi. Un de tes premiers conseils, c'est tester un petit peu à l'aide peut-être des réseaux sociaux, comme tu as fait d'articles de blog, pour commencer à créer quelque chose, même si vous gardez votre job pour le moment. Toi, aujourd'hui, tu as une superbe communauté, que ça soit sur les réseaux sociaux ou grâce à tes stages, grâce à ton livre, à tout ce que tu proposes. On sent vraiment que... t'as des fans, des gens avec qui t'as créé du lien. Ça, je trouve ça beau parce que à la fois, tu as un certain statut d'influenceuse dans le fait de partager beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Et parfois, on voit des influenceuses qui sont un petit peu déconnectées peut-être véritablement des gens. Et toi, on voit, ben, comme tu l'as dit, que t'as vraiment cet amour sincère pour les gens. Donc, voilà, pour revenir au fil de ma question, c'est comment est-ce que tu as créé ta communauté et quels seraient tes conseils pour une femme aujourd'hui qui a envie de se lancer, qui a envie de commencer à créer sa communauté, quels seraient tes conseils, ouais.
Alors, les conseils pour créer une communauté, je pense, c'est d'être soi-même et de... Ouais, d'utiliser un petit peu Instagram comme vous échangez avec vos amis, que vous échangez, vous aimez parler des choses. Je pense que moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu et c'est ce que je te disais là au début du podcast. J'aimais beaucoup le blog, mais ce qui était compliqué et lourd pour moi, c'était vraiment ce côté très travaillé, etc. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec les réseaux et l'arrivée d'Instagram, c'est ce côté spontané. Et ce qui me plaît, en fait, c'est vraiment... d'échanger simplement comme j'ai envie de parler sur le quotidien, sur tes petites astuces, de montrer un peu En fait, je me dis toujours, il doit bien y avoir d'autres personnes qui ont les mêmes envies ou les mêmes galères que moi. Du coup, je trouve ça toujours intéressant de partager, d'échanger, en fait. Et je crois que j'aime profondément les gens, j'aime profondément être en connexion avec des personnes, papoter. Et c'est ce que j'ai le plus aimé sur Instagram, c'est de, voilà, d'avoir des gens qui me posent des questions, d'échanger avec eux. Et c'est ce côté de partage et de communication. Et je pense que c'est comme ça un petit peu que ça a grandi en me posant pas trop de questions, en fait, en me disant je veux pas ressembler à ça, je veux pas avoir un fit trop parfait comme ça, je veux pas établir de stratégie sur mon compte, j'ai juste envie de partager des choses et je vais le faire. Et je pense que c'est ça que je donnerais comme conseil et qui marche le plus. C'est pas le conseil que je donnerais en community management si vous avez une marque, hein, parce qu'il faut davantage structurer, ce que moi j'essaye de faire avec le compte My Ocean Therapy. Mais sur mon compte Santa Mila, j'ai pas envie de me donner de règles et j'ai envie de partager ce que j'ai envie de partager, d'échanger avec les gens. Des moments j'ai plus envie de parler ou j'ai pas envie de me montrer parce que je suis fatiguée ou pas envie de poster de photos, je le fais pas, je l'explique. Mais je montre aussi un petit peu la vraie vie, la vraie galère et les super côtés du quotidien. Et je pense que c'est peut-être le meilleur conseil que je donnerais, c'est de pas trop se poser de questions et d'échanger ce qu'on a envie d'échanger. Et dans le pas trop se poser de questions, je pense que la vraie force, et c'est pas évident, c'est de pas se poser de questions sur qu'est-ce que vont penser les gens.
C'est ce que j'allais te demander.
Ouais. Et moi, j'avoue que je réfléchis jamais à ça. Et je me dis, je me suis toujours dit, mais alors je suis comme ça en fait. Donc je me dis toujours, bah on y va. Et en fait, je me dis toujours, il y a des gens qui nous aiment bien, il y a des gens qui nous aiment pas. Mais en fait, les gens, s'ils nous aiment pas, ils nous aimeraient jamais. Et en fait, peu importe, ils feront pas partie de votre vie, vous seront pas là. Donc faut pas se poser des questions là-dessus. Ça a toujours été comme ça dans la vie. Il y a toujours des gens qui vont dire, ah, celle-là, j'aime pas sa coupe de cheveux, ou j'aime pas comment elle est, ou. Ouais, elle nous saoule avec son océan. Et il y a d'autres gens et plus de gens qui vont trouver ça chouette. Et il faut se concentrer là-dessus, en fait, je pense. Et pas se poser de questions là-dessus. De juste se dire que ça doit être un outil pour rencontrer des gens incroyables et qui vont vous suivre parce qu'ils ont les mêmes passions que vous et que vous allez changer avec eux et qui vont aussi vous apporter des choses. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire mes séjours et que j'ai même que j'ai développé aussi le programme en ligne et que j'aime faire ces lives. Parce qu'en fait, j'aime échanger avec les gens et que ça soit pendant mes séjours ou pendant les cours que je fais régulièrement en live. Souvent, je pose beaucoup de questions aux filles ou à mes salty yogis. Et en général, ils m'apportent plein de choses. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont aussi passionnés de cet univers-là. On a pas mal de connexions. Et à chaque fois, je le vois pendant mes ocean therapy, pendant les séjours, j'ai tout le temps des filles qui me disent bah moi, mon astuce quand je suis stressée, c'est ça. Bah c'est marrant, l'océan, ça m'apporte ça, ou je vais à tel endroit. Et en fait, je trouve que même moi, ce que j'apporte sur Instagram pendant mes séjours ou pendant les programmes en ligne, en fait, ce n'est pas des choses de mon moi tout seul, c'est de tout ce que j'ai appris de toutes les personnes, de tous mes échanges avec toutes les personnes sur les réseaux, pendant mes séjours, pendant mes rencontres, pendant mes déjeuners avec toi. Et c'est un petit peu tout ça qui nous enrichit et qui nous grandit. Donc je pense que j'ai beaucoup développé ma réponse, mais en tout cas, c'est ce que je dirais, c'est de pas se poser de questions et de se dire que c'est juste un super outil d'échange, de connexion et de partager ce que vous avez à partager.
Je trouve ça génial. Surtout que oui, c'est vraiment ta force, tu es comme ça, parce que moi je sais qu'avant de poster certaines choses, je me dis genre qu'est-ce que va dire ça, je vais être jugée par cette personne. Et généralement maintenant je vois cette pensée et je me dis, quand je me dis ça, c'est exactement parce que tu dois le poster, parce que en fait c'est l'appel de qui tu es intérieurement et t'es juste en train de te juger. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas commencer aussi parce qu'elles ont peur d'être vues, elles ont peur du collègue qui va la juger, elles ont peur de, elles sont plus sensibles sur le syndrome de l'imposteur. Et ouais, c'est des chouettes conseils que tu donnes. Et on sent vraiment aussi que tu as attiré ta tribu et que tu restes très ouverte et tu t'enrichis de plein de choses et qui fait que maintenant tu crées avec les gens, que tu n'es pas isolée non plus. Ce qui est d'ailleurs ma prochaine question, c'est que tu as partiellement répondu déjà un petit peu en début d'interview, mais c'est comment est-ce que tu t'entoures de ce groupe de femmes entrepreneurs qui t'apportent, enfin nous on le voit quand on fait nos déj, comme on l'a mentionné, parce qu'il y a des femmes qui arrivent dans l'entrepreneuriat et qui se sentent assez isolées, qui travaillent toutes seules, et au final c'est tellement important. Alors est-ce que tu peux nous développer là-dessus l'importance de bien s'entourer par rapport à ça et de comment on fait.
Comment bien s'entourer, je dirais qu'il faut pas mal écouter son intuition. De s'entourer des gens qui entreprennent. Alors en fait on s'en rend pas compte, mais souvent on a quand même plein de gens qui entreprennent autour de nous, des fois pas sur des métiers similaires, mais l'entrepreneuriat ça peut être à plein de différents niveaux, et c'est d'échanger avec ces gens qui entreprennent. Après, si par exemple vous êtes dans une ville, il y a de plus en plus de réseaux d'entrepreneurs mixtes, mais aussi d'entrepreneurs féminins, et il y a beaucoup de choses qui sont faites qui sont passionnantes là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais. C'est intéressant de rencontrer des gens en physique. Et si vous n'avez pas du tout dans votre entourage ou de gens, en tout cas, vers qui vous vous sentez d'aller, de vous tourner un petit peu vers ces réseaux, de trouver des réseaux où vous sentez que vous vous sentez bien, qu'il y a des réunions régulières, etc. Je suis sur un réseau d'entrepreneurs digitales, ce qui est très pratique parce que ça permet du coup de se connecter avec d'autres femmes qui entreprennent. Et il y a aussi pas mal de formations dessus. Ça s'appelle F Collective. C'est un super réseau qui était au début un réseau physique, mais qui a fini par se digitaliser. Donc ça nous permet de faire des réunions régulières. En fait, il y en a une par mois, plus une formation à chaque fois sur un thème différent. Et après, je pense que ce qui est vraiment important, en tout cas, c'est de bien s'entourer et de vous dire toujours, même si c'est des personnes qui sont dans le même domaine, nous on le voit, hein, on est au Pays Basque plusieurs dans le bien-être, c'est toujours de vous dire en fait... qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on va tous se tirer vers le haut à échanger et à s'entraider plutôt qu'à se dire « Oh là là, si je parle avec elle, elle va peut-être me piquer mes idées ou elle va peut-être se dire que je vais lui piquer ses idées, etc. » Et du coup, ça fait aussi le point sur l'intuition de des fois, il y a des gens que vous allez moins sentir, d'aller moins vers ces gens-là. Et ça, c'est important de s'écouter. Et d'autres gens que votre intuition, vous allez vous sentir au fond de vous, que vous avez besoin d'aller vers eux, d'échanger, que voilà, c'est des gens qui vous font du bien, qui vous tirent vers le haut et qui vous motivent, et du coup, d'échanger avec eux. Donc vraiment, de vous construire du coup ce réseau-là, de vous tourner vers les réseaux d'entrepreneurs dans les grandes villes, vers ce réseau. Donc moi je vous conseille F Collective, c'est un super réseau, il y en a plein d'autres, mais ça c'est bien d'avoir un petit peu un suivi dans ces réseaux-là. En plus il y a souvent des formations, ce qui nous aide parce qu'on se sent souvent isolé, et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on au début, par exemple dans notre ancien moi dans mon ancien job, j'avais que la casquette marketing, et quand on se retrouve entrepreneur, on doit gérer de l'administratif, du légal, de la com, des RP, plein de choses différentes. Et sur ces réseaux-là, comme F Collective, par exemple, il y a des formations régulières sur la législation, etc., qui nous permettent de nous mettre à jour et qui nous mettent en contact justement avec d'autres entrepreneurs qui sont avocates, qui sont dans le marketing, qui sont dans les relations presse, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et de vous entourer aussi avec des personnes que vous pouvez rencontrer régulièrement une fois par mois, soit via ce réseau que vous êtes fait, soit via des amis que vous rencontrez, comme nous, on se voit régulièrement et on échange. C'est vraiment important d'échanger, je trouve, avec d'autres personnes qui entreprennent, parce que l'entrepreneuriat, des fois, on a des moments où on a l'impression que on éclate tout, on est au sommet, ça va être la big année. Et puis des fois, on se dit waouh, j'allais rechercher un poste en CDI, j'en peux plus de ma vie. J'en ai marre de chercher d'être toujours un moteur dans mes projets. Donc c'est hyper important dans ces moments de down de s'entourer et de savoir être bienveillant avec soi-même, parce que c'est normal vraiment d'avoir des périodes de haut et de bas, encore plus nous les femmes, puisqu'on a nos cycles féminins qui ont un impact énorme sur notre énergie. Donc vraiment d'être bienveillant et patient et de se dire ok, c'est normal que j'ai un down, et d'échanger justement avec d'autres personnes qui entreprennent, ça aide beaucoup, parce qu'ils vont vous dire bah oui t'inquiète pas, moi aussi j'ai eu ça une semaine, deux semaines, trois semaines. Et aussi des fois sur certaines problématiques qui amènent ces downs, vous allez avoir des solutions qui vont être apportées, même nous hein, quand on échange des fois, moi je te dis une problématique que j'ai, toi tu me dis bah oui moi là j'ai fait ça, elle me dit ah mais oui j'y ai pas pensé. Donc c'est hyper important de s'entourer et de pas être seul, parce que sinon vraiment on peut se brûler les ailes et faire un peu un burn-out de l'entrepreneur.
À fond. Et je suis trop reconnaissante qu'on puisse échanger pour tous les partages et tout ce que tu m'as donné aussi. Il y a plein de petites choses, parfois tu ne remarquais pas, mais dans nos conversations, j'étais là, ah ouais, ça c'est trop bien ça. Donc vraiment c'est chouette. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager encore avec les auditeurs ?
Je pensais à un point qui est vraiment, vraiment clé et qui m'a fait que j'ai failli faire un petit burn-out au tout début avant le départ de Santa Mila. Et que vraiment, depuis que je suis ici, au bord de l'océan, j'ai trouvé le parfait équilibre. C'est essentiel dans la vie en général, mais encore plus quand on entreprend, de prendre du temps pour soi. C'est ce qui nous permet d'être toujours créatif, de toujours avoir des nouvelles idées et d'être bien. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est on entreprend pour avoir un bon équilibre. Et c'est le but pour moi en tout cas d'être d'entreprendre et d'être encore plus heureux et d'avoir le parfait équilibre. Du coup, c'est important de savoir prendre des moments pour soi, parce que quand on entreprend, on pourrait travailler tout le temps. Donc ça, c'est vraiment la clé pour être bien. Et je sais que moi, ce qui me fait du bien, c'est que chaque fois, chaque début de semaine, le lundi, je cale mes rendez-vous, mes rendez-vous et mon agenda par rapport aux conditions pour aller me baigner, pour aller surfer. Et quand je suis loin de l'océan, bah, c'est de me caler du temps pour aller déjeuner avec des amis, pour aller faire des massages. Et ça, c'est vraiment clé. Donc de prendre du temps pour soi, parce qu'on n'a qu'une vie, ça sert à rien de s'épuiser à faire un travail. Et je pense que toi aussi, Anouk, t'es hyper inspirante là-dessus, de travailler, d'être entrepreneur, mais de savoir justement être entrepreneur pour avoir encore plus de moments de bonheur. Et ça, c'est la clé, je pense.
C'est un super rappel. Merci infiniment d'avoir partagé cette conversation avec moi. Je mettrai dans la fenêtre de l'épisode tous les liens vers les séjours, vers tes programmes en ligne et vers ton livre. Et ben, je vous invite à aller suivre Laure sur les réseaux sociaux. Elle a deux comptes, donc un qui s'appelle Santa Mila et l'autre My Ocean Therapy.
Exactement. Et si vous avez envie de prendre du temps pour vous, justement que vous êtes entrepreneur ou pas, vous êtes les bienvenus en séjour Ocean Therapy.
Oui, parce que tu organises aussi des séjours pour les entrepreneurs, pour qu'ils Exactement. Puissent se restaurer, comme tu viens de nous le dire.
Et développer leur réseau.
On a les deux en même temps. Trop bien. Merci beaucoup, Laure.
Merci, Anouk.
Merci infiniment d'avoir été avec nous. J'espère que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas également à la partager sur les réseaux sociaux en faisant une petite capture d'écran et en nous taguant Laure et moi pour qu'on puisse vous repartager. J'espère de tout cœur que vous alliez bien où que vous soyez. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.